Ensemble sur Calad.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calad. J'espère que la journée a bien commencé. Nous sommes le mercredi 15 février 2023. Il fait toujours beau dans le Beaujolais et dans le Val-de-Saône également, avec du soleil et des températures autour de 10 à 12 degrés environ cet après-midi. Dans notre émission, nous recevons aujourd'hui Christelle Mahé pour nous parler de son activité, le temps du vitrail, basé à Rouen. Et comme son nom le laisse penser, il s'agit de vitrail. On va donc s'intéresser à cet art, comment ça marche, comment on en fabrique, comment on l'entretient aussi, pourquoi pas. Et ce qui tombe bien, c'est que Christelle Mahé, elle a l'habitude d'expliquer et de transmettre, puisqu'elle anime des initiations et des ateliers ouverts à tous pour apprendre à fabriquer du vitrail. On en parle dans quelques minutes. D'abord, on commence notre émission comme d'habitude en musique. Et on écoute aujourd'hui la jeune chanteuse Pomme avec un morceau qui s'appelle La Lumière. Nous sommes ensemble sur Calad, il est 12h12. On commence très tôt aujourd'hui. Merci d'être avec nous.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons, une rivière. Le château des secrets, tu es le moins âgé, tu en connais des secrets, tu les dis pour pas les oublier. Ah, ah, oublier tes enfants et les enfants de tes enfants. Ah, ah. Tes joies, tes colères,
C'était Pomme sur Calade avec un morceau qui s'appelait La Lumière.
Ensemble sur Calade.
Et la lumière, elle connaît bien notre invitée, c'est Christelle Mahé. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Merci d'être venue nous voir aujourd'hui dans nos studios pour nous parler de votre activité. C'est le temps du vitrail.
Tout à fait.
Le nom de votre atelier qui est installé à Ouin.
Oui.
Où vous pratiquez l'activité de la création de vitrail. Comment est-ce que vous dites, vous ?
Oui, création, restauration de vitraux. Je fais du vitrail, effectivement.
Très bien. Et vous m'avez dit, quand vous êtes arrivée, vous avez commencé vers 2009, c'est ça ?
Je me suis installée en 2009, effectivement, à Ouin.
Et où et comment est-ce qu'on apprend à faire des vitraux ?
Alors, il y a quelques écoles du verre en France. Moi, je suis passée par une formation professionnelle dans un atelier avec un maître verrier. Mmh. Et après, j'ai passé mon CAP en candidat libre.
D'accord.
Pour avoir mon premier diplôme.
Il y a un CAP verrier, du coup. Mais c'est
oui,
large.
Verrier, option, vitrailliste. Okay. Moi, c'était vraiment ça que je souhaitais faire. Parce qu'effectivement, dans les métiers du verre, il y a beaucoup de corps de métier. Mmh.
Et vous êtes arrivé là, pourquoi et comment ? Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré du coup dans le vitrail ?
Alors, moi je cherchais ma matière à travailler. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Et le hasard m'a poussée vers le vitrail. Et quand j'ai découvert le vitrail, ça a été une révélation. Donc je savais que j'étais vitrailliste et que je voulais faire du vitrail. Mmh. Et pour en faire tous les jours, toute ma vie, il fallait que je me forme professionnellement et que j'ouvre mon atelier.
D'accord. Et alors, moi, je connais pas très bien. Pour moi, les vitraux, c'est dans les églises et c'est tout. Malheureusement, c'est le stéréotype, le cliché que j'ai en tête. Déjà, c'est du verre et c'est quoi d'autre ? Qu'est-ce qui compose un vitrail ?
Alors, un vitrail, c'est effectivement à la base, souvent, pour nous, des verres à plat, teintés dans la masse, qui vont être enchâssés par un sertissage qui peut être du plomb, qui peut être du cuivre, qui peut être de la résine ou du béton quand on travaille la dalle de verre, et qui peut être aujourd'hui sans sertissage si on travaille la fusion. Donc on va fusionner des verres entre eux et on va faire des panneaux de verre. D'accord. Qui s'assimilent au vitrail.
Donc le sertissage, c'est le lien qu'il y a entre deux morceaux de verre, si je résume.
Tout à fait, okay. C'est ça. Donc ça peut être le plomb. Ouais. Traditionnellement, le cuivre, qui est venu fin 19e, et la dalle de verre va être de la résine ou du béton avec des morceaux de verre qui font à peu près 2,5 cm d'épais,
okay.
Et qui va être coulé autour des verres, et la fusion, pas de sertissage. Mais effectivement, un vitrail, c'est du verre teinté dans la masse à plat, qui est enchâssé dans quelque chose et qui est la définition du vitrail.
D'accord. Et teinté dans la masse, ça veut dire que dans les pigments de couleur, ils sont à l'intérieur du verre. C'est pas une couche de peinture qu'on va mettre dessus.
Alors effectivement, le verre teinté dans la masse est un verre qui est créé coloré.
Ok.
Mais il peut accueillir des peintures.
On peut le peindre pour peut-être rajouter du détail ou
ce
genre de choses.
Par exemple, si vous voulez créer un drapé sur une robe rouge ou sur un verre rouge, vous allez créer un drapé à la grisaille. Mmh. C'est comme si vous alliez dessiner sur une feuille blanche au crayon noir pour créer le drapé alors que votre base est blanche.
Mmh. Alors, effectivement. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que c'était comme des mosaïques où on avait des bouts de verre qu'on allait casser et associer ensemble pour essayer de faire la forme qu'on veut, ou est-ce qu'on arrive à lui donner exactement la forme qu'on veut, à aller le tailler bien comme il faut, ou bon, on fait avec...
Alors, effectivement, on ne casse pas le verre, on va le découper comme
d'accord,
on souhaite.
Okay.
On essaye en tout cas. Il y a des coupes qui ne se font pas parce que cette matière a des coupes qu'elle n'aime pas.
Ah, c'est fragile.
Donc,
quoi.
Oui et non, c'est quand même solide. Mais le verre n'aime pas être creusé, par exemple.
D'accord.
Alors moi, mon maître verrier m'a appris que si un morceau de verre ne pouvait pas sortir de nos mains, parce qu'on a des machines qui peuvent, des rubans, des scies à rubans diamantés qui peuvent découper un petit peu comme on souhaite le verre.
Ouais.
Mais si on n'arrive pas à sortir le morceau par la main, il ne sera pas viable. Donc c'est vraiment un travail avec son coupe-verre, ouais. Des gabarits en papier si on fait un vitrail qui n'est pas géométrique, sinon on va faire des piges qui sont des gabarits en verre. Et on va découper au fur et à mesure.
Alors là, vous m'avez un peu perdu. Des piges qui sont des gabarits en verre, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, quand on a une géométrie, on a une multiplication d'un même motif.
D'accord, oui.
Donc au lieu d'avoir un gabarit en papier qui va avoir une utilisation d'à peu près 4 coupes, on va créer un gabarit en verre qui va nous permettre de débiter un grand nombre de ce même...
D'accord.
De ce même motif.
Si je fais un arbre en vitrail, je peux faire un gabarit d'une feuille et comme ça, une feuille de l'arbre et je le répète.
Non, vous allez faire du papier.
D'accord.
Par contre, si vous avez un losanger, vous allez faire un gabarit pour la hauteur du losange, un gabarit pour la largeur du losange et vous allez débiter des bandes qui vont vous permettre de découper le motif.
Très bien. Très bien, très bien. Bon, je commence à comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Et moi, j'avais du coup, ce que je disais au début, ce cliché en tête que les vitraux, on les trouve que dans les églises, c'est à ça que ça sert, c'est pour décorer les murs de ces grands bâtiments religieux. Et je vous ai vu faire la grimace quand j'ai dit ça, parce que j'imagine que c'est très réducteur, c'est un art qui se diversifie, qui se retrouve un peu partout.
Alors, vitrail, on peut en mettre partout. Il n'y a pas besoin d'être grand pour exister. Il faut juste avoir le bon dessin dans le bon lieu pour mettre en valeur l'ensemble. C'est le bijou d'une maison. Ouais. Alors les vitraux, il y en a beaucoup chez les particuliers, sauf que comme on ne se balade pas chez eux, on ne les voit pas. Mais il y en a vraiment beaucoup. On peut avoir des luminaires en vitraux, on peut avoir des plafonniers, on peut avoir des séparations de cloisons, on peut avoir vraiment beaucoup de choses. Le vitrail va partout.
Ouais. Et alors moi j'ai vu des bouquets de fleurs en vitraux, par exemple dans vos créations, ce genre de choses que j'avais jamais imaginé. C'est pas forcément une vitre, en fait, un vitrail, c'est pas forcément accroché à une fenêtre.
Non, ça peut aller partout.
Ouais.
Effectivement, on peut travailler en volume aussi. Et ça, c'est la technique Tiffany qui permet de mieux travailler en volume. Mmh. Cette technique avec ce ruban de cuivre qui est beaucoup plus léger et qui va permettre de faire des boîtes, des lampes, qui va permettre de faire des fleurs, qui va permettre de faire un tas de choses, des suspensions.
Je ne vous ai pas demandé d'où ça venait, le vitrail, justement, si c'était sur les... Enfin, ça remonte à combien de temps, à peu près
Il est millénaire, maintenant.
Ouais.
Oui, ça y est, il est millénaire. Il me semble, de mémoire, parce que c'est loin, que ça date du 10e ou 9e siècle.
D'accord, ouais.
Le vitrail. Et la grisaille, qui est la peinture qui est souvent accompagnée avec les vitraux, date aussi de cette période-là. Mais on n'a pas l'historique de la grisaille, par contre. On ne sait pas quand c'est apparu.
D'accord. Et vous, vous transmettez. Vous avez appris il y a un moment à créer. Et le fait de transmettre, d'apprendre à d'autres à faire, c'est venu quand?
Tout de suite. Moi, j'aime partager ce que j'aime.
Pas faire toute seule.
Moi, ça m'apporte tellement de bien-être. C'est un art qui est très complet. Mmh. C'est un art qui oblige à la présence, à être vraiment avec soi et au moment présent. Il faut vraiment regarder ce qui se passe, être précis dans ses gestes, sentir la matière, entendre la matière. Mmh. Ça, c'est par le son, par le toucher. C'est un art assez magique.
Ouais.
Et j'aime transmettre ça parce que ça apporte beaucoup de choses pour soi.
J'ai l'impression que par rapport au dessin où je vais prendre un pinceau ou quoi que ce soit et sur une feuille je vais faire montrer, je vais voir ce que je suis en train de faire au fur et à mesure, le vitrail, pour avoir un résultat, il y a du boulot, il y a plusieurs étapes, c'est pas aussi immédiat aussi, c'est...
Alors pour moi, c'est un art qui est quand même rapide.
Ouais.
J'aurais eu du mal à faire de la mosaïque, parce que je trouve ça plus lent que le vitrail.
Ouais.
Mais le vitrail, pour moi, se révèle assez rapidement. Alors effectivement, il est très complet aussi, parce qu'on est obligé de commencer par un dessin. Donc le dessin doit être l'exactitude de ce qui va être.
Ouais.
Et de là, on va sortir nos gabarits, on va découper nos morceaux de verre, mais dès qu'on commence à assembler, on voit naître notre dessin. Donc c'est quelque chose qui demande quand même du temps, mais où il y a quand même un résultat rapide. Il y a la naissance du vitrail, ça va vite.
Ça va vite quand même.
En tout cas, pour moi, je ne trouve pas ça long.
Ouais. Et donc, on peut venir apprendre chez vous, on peut venir essayer de faire, de créer un vitrail. Ça se passe comment ?
Alors, vous pouvez venir effectivement. Je propose des stages d'initiation sur deux techniques, le vitrail traditionnel, donc au plomb, et le vitrail Tiffany. Mmh. C'est des sujets que j'impose, parce que quand on n'a jamais fait de vitrail, on ne peut pas venir avec n'importe quel dessin qu'on souhaite. Donc, vous venez et vous faites toutes les étapes qui sont obligatoires à l'ensemble, à la création en fait d'un vitrail. Il y a beaucoup d'étapes et chacune de ces étapes est liée à l'autre. Donc il faut vraiment prendre son temps pour faire son dessin correctement, pour découper ses gabarits, pour découper ses morceaux de verre et pour prendre le temps de faire le montage.
Ouais. On peut pas dire bon, cette étape, moi ça me plaît pas trop, je le fais vite fait et puis tant pis.
On peut toujours se le dire, mais on va devoir rectifier à l'étape suivante.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est souvent la surprise d'ailleurs.
Ok. Et ça demande des techniques particulières ou faut savoir dessiner, faut savoir faire de la soudure.
Alors tout s'apprend, j'ai envie de dire. Hein. Quand on fait un stage d'initiation, c'est vraiment prévu pour des gens qui n'ont jamais fait de vitraux, donc ils vont faire leur vitrail. Moi, je suis là pour les guider. Et le plus important, c'est d'avoir envie de le faire.
Ouais. Ok. Et
déjà. Ouais.
Et on rentre chez soi avec ?
Bien sûr, ou on rentre pas.
Génial. Donc ça, c'est des initiations, ça se passe le week-end, il y a des dates que vous proposez sur votre site internet.
Tout à fait.
Et il y a des ateliers plus réguliers, des gens qui viennent
Alors après, si les personnes souhaitent réaliser un projet pour personnel, en fait, je propose des cours à l'année. Donc à peu près de septembre à juin. Et les personnes viennent avec leur propre dessin. On l'étudie ensemble pour que ce soit adaptable à cet art-là. Et ils vont faire leur vitrail et continuer leur apprentissage en fait, au fur et à mesure de l'année. Donc ils en font un, ils en font deux, ils en font dix. Ça dépend de ce qu'ils ont prévu. Mmh. Et moi, je les accompagne. Parce que dans un stage d'initiation, vous allez avoir une base de ce que vous devez faire pour faire un vitrail. Mais chaque vitrail va se monter d'une manière différente. Et toutes les coupes ne se ressemblent pas. Donc c'est vraiment après une gestuelle qui doit s'intégrer dans le corps. Il y a une mémoire du corps qui va venir au fur et à mesure.
Et des créations super différentes les unes des autres. Dans les ateliers, en tout cas, qui sont proposés à l'année, on peut voir quelques photos sur votre site. Il y en a qui vont faire des choses très classiques. J'en ai vu un avec un ballon de football américain géant.
Ballon de rugby,
ballon
miroir.
Ballon de rugby, c'est ça ?
Tout à fait.
On peut s'amuser à faire ce qu'on veut.
Exactement. En fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, ça va être notre imagination.
Ouais.
Et après, il faut adapter le dessin à cet art. Mais il n'y a pas de limite dans le vitrail.
Donc vous avez cette activité de transmission, de partager. Et puis j'imagine que vous avez aussi vos créations dans votre atelier.
Oui.
Vous aimez faire quoi en particulier ? C'est quoi le... Puisqu'il n'y a pas de limite et qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut.
C'est compliqué de répondre à cette question.
En ce moment, vous travaillez sur quoi, par exemple ?
En ce moment, je suis sur des restaurations.
D'accord.
Donc je suis pas dans la créativité. J'aime bien faire beaucoup de choses en fait. Enfin tout ce. J'ai pas de quelque chose en particulier. Il y a un moment donné quelque chose qui m'anime et je souhaite le sortir. Donc je peux partir. J'aime bien les choses un peu déstructurées. Je mets pas beaucoup de peinture. Parce que la peinture, pour moi, est très sombre. Mmh. Et les verres ont des robes qui sont très belles. Et j'aime jouer avec le soleil, de ces couleurs-là, de ces... Ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je ne suis pas, je suis pas dans une catégorie ou une autre. Mmh. Je vais laisser l'inspiration me guider, en fait.
Donc la lumière, elle passe à travers le vitrail pour lui rendre sa beauté aussi. C'est un objet, il a besoin de... Il a besoin d'une lumière, d'un éclairage particulier.
Il a besoin de lumière, effectivement. Bien qu'il y ait des vers qui soient opalescents et qui peuvent vivre sans la lumière du soleil, mais c'est quand même la plus belle, ça c'est sûr. Après, ce qui est joli, c'est d'aller vers d'autres matériaux. Le métal et le verre, c'est magnifique. Le bois, le verre, c'est magnifique. La pierre, le verre, c'est magnifique aussi. Ouais. Donc en fait, chacun va se magnifier. J'aime bien peut-être partager avec d'autres artisans pour créer quelque chose ensemble.
Faire des créations ensemble, ouais, parce que vous l'avez déjà fait plusieurs fois, ça.
Oui, ça m'arrive.
Avec, par exemple, des sculpteurs, des.
Avec effectivement des personnes qui travaillent du métal,
ouais.
Des tailleurs de pierre aussi, avec l'association des carrières de Glais.
Ouais.
On avait mis des vitraux dans des pierres taillées qui étaient très jolies. Des menuisiers aussi, ou des.
Très
chaque
bien.
Personne qui a envie.
Où est-ce qu'on peut voir votre travail? Dans votre atelier?
Oui, dans mon atelier, oui. Oui, tout à fait, à Ouin.
Dans le village d'Ouin, en plus c'est super joli, ça fait une
à
belle
côté
balade.
De l'église, je suis.
Très bien. Donc c'est le temps du vitrail, où on peut venir vous voir. Il y a un site internet qui s'appelle letempsduvitrail.com où on retrouve toutes les petites infos si on veut vous rencontrer.
Tout à fait. Appelez-moi, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, je vous accueillerai.
Et les prochaines initiations, c'est quand?
Alors, il me semble qu'il y en a en mars, là. Je ne sais pas si ce n'est pas le 11 et 12 mars. Et il me semble que c'est du plomb. Mais bon, vérifiez sur mon site, parce que là, je n'ai pas tout en tête.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous expliquer comment ça marche et nous parler de votre passion.
Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.
Ensemble sur Calad.
Allez, on écoute les Feux Chatterton tout de suite. Voici leur titre, La Fenêtre, tout simplement.
Parfum d'outrage que tu portes à ton cou.
C'était Feu Chatterton qui nous parlait à travers leurs fenêtres.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplepuisienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, je vous présente aujourd'hui le noisetier, que l'on nomme aussi noisetier commun, coudrier ou encore avelinier. Il est classé dans la famille des bétulacées. Dans notre région, cette famille est principalement représentée par les noisetiers, les aulnes, les charmes et les bouleaux. Tous ces arbres portent des fleurs mâles groupées en une grappe allongée que l'on nomme chaton. Le nom scientifique du noisetier est Corylus avellana. Il est commun dans toute la France. Le nom Corylus vient de Corollus, nom latin du noisetier, qui dérivait du grec chorus pour casque, en rapport avec la forme des coques recouvertes d'une membrane à franges qui entoure la noisette. Avellana viendrait de la ville italienne Avella, dans la province d'Avellino, dont les noisettes étaient réputées. Ou peut-être du gaulois abalo, qui désignait une pomme. Une aveline est une grosse noisette presque ronde, et avelinier était le nom de cette sorte de noisetier. Le noisetier est un arbrisseau. Ses troncs multiples s'élèvent de 2 à 5 mètres de hauteur. C'est un arbre indigène très abondant, sauf en sol pauvre et détrempé. Ses rameaux sont gris à gris olive, mat, densément et finement couverts de poils, surtout vers le sommet. Leur écorce présente des taches dispersées, légèrement arrondies et allongées. Ce qui va vous intéresser aujourd'hui, d'un point de vue culinaire, ce sont les grappes de fleurs mâles qui naissent longtemps avant les feuilles. Les photos du podcast vous permettront de les découvrir pour les identifier sur le terrain. Elles sont très visibles en ce moment. Chaque rameau de noisetier porte à la fois les chatons et les fleurs femelles qui sont discrètes et ressemblent aux bourgeons de feuilles. Et oui, on ne mange pas que les noisettes dans le noisetier. Alors pour l'heure, concentrons-nous sur ce qui est nettement visible en cette saison. Pour les vertus, les bourgeons de noisetier, bien visibles eux aussi en ce moment, sont utilisés en gémothérapie, comme draineurs du poumon. Il favorise la synthèse des globules rouges dans la moelle osseuse. Vous pouvez, au détour d'une balade, en grignoter quelques-uns pour leurs bienfaits. Attention cependant à ne pas les confondre avec les fleurs femelles qu'il faut préserver, car ce sont elles qui produiront les noisettes. Les chatons sont sudorifiques et auraient un effet coupe-faim. Ils sont riches en protéines et en de nombreux minéraux et vitamines. Maintenant, parlons un peu cuisine. Je partage avec vous deux de mes recettes très simples à réaliser pour que vous puissiez goûter à ce cadeau de la nature. Pour la première, cueillez une vingtaine de chatons. Il vous faudra aussi une tablette de 100 g de chocolat noir et une feuille de papier cuisson. Détachez les chatons du pédicelle qui les réunit, coupez-les en 2 à 3 morceaux et réservez. Placez le chocolat cassé en morceaux dans une casserole et faites fondre au bain-marie sans remuer. Lorsqu'il est tout juste fondu, incorporez les morceaux de chaton et amalgamez rapidement et versez chaud sur la feuille de papier cuisson. Aplatissez le chocolat sur environ 2 cm d'épaisseur et lissez le dessus. Laissez refroidir. Une fois que la préparation aura durci, vous pouvez la couper en morceaux et vous régaler. Les fleurs donnent une texture qui ressemble un peu à celle de la noix de coco. Le plus serait d'incorporer aussi dans le chocolat fondu quelques morceaux d'écorce d'orange confite. La deuxième recette est un accompagnement pour un plat salé. Cueillez une poignée de chatons par personne. Il vous faudra aussi du beurre et un peu d'huile d'olive, du fromage râpé fondant, du sel et du poivre. Je vous laisse juger des quantités selon votre goût. Détachez les inflorescences de noisetiers de leur pédicelle et laissez-les entières. Déposez-les dans une poêle contenant l'huile et le beurre fondu et faites rissoler. L'idéal est d'arrêter le feu lorsque les chatons sont croustillants et avant qu'ils ne brunissent. Parsemez abondamment de fromage râpé et dégustez chaud. C'est un accompagnement insolite et original. Le petit plus serait de préparer une béchamel, d'y incorporer le fromage et de verser sur les chatons rissolés. Les inflorescences mâles du noisetier ont un goût un peu âpre qui disparaît lorsqu'elles sont accommodées. Certains peuples, Pologne, Bosnie, les réduisaient en farine pour les incorporer dans des galettes très nutritives. Voilà, il ne vous reste qu'à vous mettre en chemin pour cette découverte. Je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Allez, on va prendre un petit cours d'économie avec le prof Patrick, mais d'abord je vous propose d'écouter une nouveauté. Le groupe Dabrek vient de sortir un nouvel album, et pas des moindres, excellent album, qui s'appelle tout simplement The Best Rhythm Eternal Action Crew. On écoute un extrait, voici Morning Sun. C'est Dabrek sur Kellad avec l'un de leurs derniers titres, Morning Sun, extrait de leur tout dernier album.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Kellad.
Accessible.
Le prof
Patrick.
Eh oui, il est avec nous en studio, c'est le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, ça fait longtemps qu'on ne sait pas.
Oui, oui, il y a eu quelques interruptions depuis la dernière chronique.
La dernière fois.
Qui était la première de l'année d'ailleurs.
Ouais, la dernière fois, on parlait réforme des retraites.
Totalement, totalement. Et je vais résumer un petit peu dans cette première chronique, cette première partie sur la réforme des retraites qui était le 25 janvier. Je vais résumer ce qu'on avait dit. On s'était fondé sur le patronage, entre guillemets, de l'autorité la plus incontestable sur la question des retraites, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Celui-ci a dit clairement que le système en vigueur actuellement, qui est basé sur la réforme de 2014, la réforme Touraine, était à partir de 2030 et pour une longue période, pour plusieurs décennies, équilibré. Il y a quelques petits déséquilibres jusqu'à 2030, mais rien d'extraordinaire. Il n'y a donc pas de problème d'équilibre comptable qui justifie une réforme d'une telle ampleur. Le problème, s'il n'est pas comptable, il est politique, avions-nous dit. Il y a derrière le projet de réforme de M. Macron une volonté politique fondée sur une vision du monde, et c'est ce que j'avais prévu de décrypter aujourd'hui.
Ouais.
Vous verrez dans les liens du podcast, je mets tout un tas de choses, notamment une déclaration du président du Conseil d'orientation des retraites, une chronique d'un économiste sur la question des déficits, une vidéo de la chaîne YouTube Eureka, et tout ça pour apporter du grain à moudre aux questions que j'ai l'air de laisser de côté un peu, l'idée de dire non, c'est pas justifié comptablement. Alors, voilà, donc il y a de quoi renforcer un peu cette analyse dans les liens. Mais aujourd'hui, je vais faire le prof Patrick et je vais proposer une méthodologie. On va faire de l'induction, Mathieu.
Et ça, c'est pour chauffer des plaques électriques.
C'est pas ça.
Non.
L'induction, ça consiste à partir du particulier et d'aller au général.
Okay.
Voilà. Pourquoi ? Pour pas perdre en chemin les auditeurs en commençant trop large dès le début, en étant trop dans la théorie. Non, on va commencer par les choses concrètes. Dans la première étape, on va parler de la politique de l'offre, Mathieu.
Ouais.
C'est-à-dire la politique économique que nos gouvernements depuis 2013 font sans discontinuer. Alors c'est quoi une politique économique de l'offre ? C'est une politique qui consiste à donner la priorité à la compétitivité des entreprises situées sur le territoire français. Par tout un tas de mesures, depuis 8 ans ou 9 ans, le CICE, les diverses lois sur la flexibilité du marché du travail, la loi El Khomri, les ordonnances travail de Macron, etc. Les diverses réformes de l'assurance chômage, les réductions de charges sur les bas salaires en majeure partie pour les entreprises, et enfin, plus récemment, la baisse des impôts sur la production. Tout ça, c'est toute une succession de mesures dans le cadre de la politique de l'offre pour donner de la compétitivité aux entreprises. Sauf que certaines de ces mesures coûtent très cher à l'État, mon cher Mathieu. Pour le CICE, c'est par exemple 20 milliards d'euros tous les ans. D'accord, donc ça coûte cher. Pour la baisse des impôts sur la production qui commence à se mettre en place à terme, ça sera 20 milliards d'euros par an également. Puis à côté de ça, en plus de tout ce que je viens de citer, vous avez les différentes baisses d'impôts qui ont été réalisées lors du premier quinquennat Macron et qui ont représenté quand même un total de 24 milliards d'euros d'économies pour les Français. Mais 24 milliards d'euros de recettes fiscales en moins. D'accord ? Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Enfin, on va rajouter une petite couche, vous n'avez pas oublié, chers auditeurs, l'anus horribilis, pour parler latin, de 2020, qui a nécessité des aides gigantesques pour que l'économie ne s'effondre pas. On peut citer juste l'exemple du chômage partiel, qui a coûté 27 milliards d'euros en 2020 à lui tout seul. Bref, vous l'avez compris, chers auditeurs, le but numéro un de la réforme des retraites de M. Macron est de faire des économies sur le poste retraite pour financer les multiples dépenses que j'ai citées. Un économiste, Gilbert Sept, qui est en faveur de cette réforme, ne s'en cache pas. Il dit que la réforme des retraites, c'est 20 milliards d'euros d'économies par an à l'horizon 2027. C'est ça, la finalité, le but numéro un. On peut noter d'ailleurs que lors de la tentative de mettre en place sa première version de la réforme des retraites, excusez-moi, en fin 2019, début 2020, qui était quelque chose de bien plus ambitieux, c'était l'idée d'une retraite à points. Et on avait assisté dans les coulisses du pouvoir à un vrai bras de fer entre ceux qui voulaient mettre en place cette réforme de la retraite à points et ceux qui s'en foutaient totalement, mais qui voulaient surtout profiter de la réforme pour faire des économies. Bon, Macron, à l'époque, penchait du côté des réformateurs, de la réforme à points. Vous avez compris, chers auditeurs, qu'il a changé de camp et que désormais, il s'en fout de la réforme à points. Elle a été abandonnée, il veut faire des économies. Voilà, ça c'était la première étape, Mathieu. On va donc élargir le point de vue maintenant et passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est de dire qui va être les bénéficiaires et qui seront les dindons de la farce de cette aventure, de cette réforme. Choisir ça, c'est un choix politique, tu t'en doutes bien, d'accord ? Et pour ça, on a des indications solides quant au choix de Macron. On va remonter à une vidéo que je remettrai dans les liens, mais que j'avais déjà proposée, réalisée par la revue Pour l'Écho, sur qui a bénéficié de ces fameux 24 milliards d'euros de baisse d'impôts lors du premier quinquennat. Alors les bénéficiaires côté ménage, c'était les Français qui travaillent, les Français en emploi, avec primes d'activité, des choses comme ça. Les dindons de la farce, c'était les autres, les chômeurs, les étudiants et aujourd'hui les retraités. On rognait sur les allocations familiales, on rogne sur les allocations logement et maintenant on va rogner beaucoup plus sérieusement sur les retraites. Côté bénéficiaire, le grand gagnant, j'ai dit c'est les Français en emploi, mais en fait le grand gagnant c'est les entreprises, hein, d'accord ? Je mettrai dans le podcast un joli graphique de David Kella, qui est un économiste, qui montre la progression absolument vertigineuse des aides aux entreprises avec une accélération à partir de 2013, date du lancement de la politique de l'offre. On est donc dans une vision du monde où tout doit être subordonné au travail. L'Union européenne est sur la même longueur d'onde, hein, note bien, puisque depuis le début des années 90, elle oblige ses pays membres à faire tout leur possible pour augmenter le taux d'emploi dans chaque pays, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent dans la population totale. Il s'agit de maintenir le plus grand nombre possible de personnes en activité. Et ça, ça va nous permettre de passer à la troisième étape de notre raisonnement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette obsession du travail ? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un texte d'un philosophe qui s'appelle Pierre-Olivier Monteil, dont je mettrai le texte en lien dans le podcast. Il s'agit pour lui du travail vu sous un angle purement quantitatif, puisque le but est de mettre tout le monde le plus possible au travail pour faire progresser le taux d'emploi. La question de la qualité du travail, la question du sens du travail n'est pas posée, elle est laissée de côté. D'accord ? Bon alors, de façon pas très étonnante, cette conception est totalement cohérente avec la vision du monde, la vision économique, des économistes classiques et néoclassiques, qui voient, alors je vais citer Adam Smith, le travail comme un sacrifice de liberté, de repos et de bonheur. Ça, c'est Adam Smith, c'est clair. Hein.
C'est une bonne définition.
Alors pourquoi ce sacrifice ? Pierre-Olivier Monteil nous dit, pour obtenir l'utilité véritable que sont la consommation et le loisir.
Ah oui, ça donne de la valeur au fait de pouvoir être prêt à acheter des trucs.
Il faut pouvoir faire tourner la machine capitaliste,
ouais,
consommer.
Passer une mauvaise journée au boulot pour se rattraper sur des bêtises qu'on va aller acheter.
Totalement. Et cette conception, elle imprègne tout le capitalisme. Hein. On peut revenir à la conception du taylorisme fordiste, l'organisation du travail qui dominait l'industrie au début du XXe siècle. C'est une conception disciplinaire, hein, d'accord ? Le but, c'est vraiment le travail dans la souffrance, le travail, c'est pas la joie, etc. La question du sens, eh bien, on va la réserver à une petite élite, hein, mais pas à la masse. La masse, elle se tait et elle bosse. D'accord ? Pour ceux qui voudraient savoir ce qu'il en est de cette élite, ben, je vous mettrai en lien une étude qui a été faite sur les anciens députés de Macron qui ont perdu leur siège en juin et qui ont un mal de chien à trouver un boulot à la hauteur de leurs espérances. Eux, par contre, on leur dit pas, ben, suffit de traverser la rue, gros feignant, va bosser, quoi. Non, 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 eux, ils prennent leur temps, parce qu'ils se posent la question du sens, tu vois.
D'accord, ouais.
Alors, on va passer à la quatrième étape de notre raisonnement, mon cher Mathieu. Dans quelle vision du monde s'insère cette conception de la valeur travail, de l'injonction à travailler toujours plus? Bon, la réponse ne va pas beaucoup vous surprendre, chers auditeurs, si vous avez suivi certaines de mes chroniques. Ça s'insère dans la vision du monde néolibérale, voilà. Celle qui domine nos sociétés capitalistes depuis 40 ans, depuis les années 80. Je mettrai encore une fois dans les liens une chronique que j'ai faite en décembre 2020 qui détaillait ce qu'est le néolibéralisme. Bon, je vais quand même résumer en deux mots. Le néolibéralisme consiste à employer toute la puissance d'intervention de l'État pour contraindre les citoyens à s'adapter à une société fondée sur la liberté des marchés et la concurrence généralisée. Tout doit être subordonné à la liberté des marchés et à la concurrence généralisée. Tout, même les libertés démocratiques, doivent venir en second. Il s'agit de mettre l'ensemble de la société en tension concurrentielle permanente. Pour aller au bout de la logique, les libéraux se proposent en France, d'abattre tout ce qui a été construit depuis 1945 en matière d'État-providence et de solidarité. Je vais citer l'ancien vice-président du MEDEF, Denis Kessler, qui a bien résumé cette ambition dans une interview du magazine Challenge. Je le cite, j'ouvre les guillemets. « La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là, la liste des réformes. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Fermez les guillemets. Voilà Mathieu, j'en arrive à ma conclusion. La réforme des retraites n'est qu'un maillon de la chaîne de ce meilleur des mondes néolibéral où tout le monde doit être mis au travail pour produire sans fin, encore et toujours plus. Karl Polanyi, économiste, a beau nous avoir prévenu en 1944 dans son ouvrage célèbre « La grande transformation » du caractère complètement mortifère de cette vision du monde, et entre-temps, on a pris conscience du caractère aussi destructeur pour la planète de cette vision du monde, eh bien, ça ne change rien. Les êtres humains ont la mémoire courte. Alors, au boulot, les seniors.
Allez, on va dans le mur, on y va avec le sourire.
La semaine prochaine, si tu veux bien, Mathieu, on fera un troisième épisode où je prendrai en détail qui sont les grands perdants de la réforme cette fois-ci. Et est-ce que les mesures sociales contenues dans le projet de Macron sont à la hauteur des enjeux?
Très bien. Bon, le programme est noté, merci beaucoup. Puisqu'on remonte un peu dans le temps, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière avec cette réforme, c'est ça l'idée?
À ma foi.
Bon, bah, je vais chercher des musiques dans mon grenier. Voici Henri Salvador, le travail c'est la santé.
Ah bah oui, c'est cool ça.
C'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez, tous ensemble là. Le travail, c'est la santé.
Allez, on va pas donner tort à Henri Salvador. C'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci de l'avoir suivi. Elle sera bien sûr sur notre site internet radio-calade.fr en réécoute et en rediffusion demain matin à 10h. Je vous souhaite une excellente journée. Je peux quand même vous dire ce qui vous attend dans quelques secondes à l'antenne. Le journal de RFI à 13h, le journal de Sylvie Rosier, le journal local à 13h10. Et puis à partir de 14h, un beau programme. Vous retrouvez votre émission Chansomania pour parler de chansons françaises. À 15h, c'est Polémics, la voix off. Et à 16h, Cinérama avec toute l'actualité cinéma. Prenez bien soin de vous, à demain, ciao ciao.
Ensemble sur Calade.